Saint Geoffroy, qui est fêté le 6 octobre. Geoffroy vécut durant la fin du XIe siècle et le début du XIIe, en Limousin. Geoffroy fut d'abord ermite, puis religieux augustin, et Geoffroy releva les ruines d'un ancien monastère et en fit un prieuré de chanoine augustin. Sa ferveur, son ardent apostolat, en firent un évangélisateur très efficace. Geoffroy fut canonisé par la voix populaire. Geoffroy était d'une famille paysanne, et c'est dans le petit village nommé Boscabillo, un agglomérat, un groupement de pauvres masures, rassemblées et serrées les unes et les autres entre la ceinture de vergers et de jardins potagers, qui enserrait ces hameaux couverts de chaume ou de pierres plates, non loin de la fortification du solide château de Bribier, au cœur du Limousin, que le jeune Geoffroy naquit vers la fin du XIe siècle. Le Limousin, entre la Marche, le Quercy, l'Auvergne et le Périgord, avait été 12 siècles plus tôt habité par les Lémovis, d'où le nom de Limousin, venu plus tard par contraction et déformation linguistique de ce mot. Lémovis, nom donné par le conquérant romain Jules César, Lémovices Armoricani, aux divers peuples qui séjournaient, qui s'étaient implantés en ces régions. Au nord, le peuple qui résidait dans les bocages profonds, marécageux, se nommait lui-même Biturigès Cubi, tandis qu'au sud, dans les plaines plus fertiles, les Cadurcis vivaient surtout d'élevage. Et c'est entre les Bituriges et les Cadurcis que, lors de la conquête romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Lémovis, ancêtres des habitants du Limousin, ancêtres de la famille du jeune Geoffroy, c'est dans ces régions déjà montagneuses, à l'air vif mais aux terres maigres et peu productives, que Geoffroy, tout jeune enfant, menait, paître, les quelques moutons de ses parents. On se souvenait, et les plus anciens parmi les paysans, rassemblés le soir à la veillée près des âtres où rougeoyaient les braises, les plus anciens le rappelaient parfois. Quelques siècles plus tôt, 6 siècles plus tôt, les féroces Visigoths, venus des lointaines contrées de l'Est vers la glaciale Vistule, étaient descendus en longues hordes sauvages, balayant tout ce qui subsistait encore de l'ordre romain, de la sage mais ferme et sévère administration romaine, brûlant et saccageant tout sur leur passage, pillant les belles exploitations gallo-romaines et anéantissant toute résistance. Et maintenant, en cette fin du XIe siècle, les divers seigneurs possesseurs de domaines, de terres plus ou moins vastes, se confédéraient les uns aux autres, s'investissant de pouvoirs souverains dans leur propre domaine, mais subordonnés entre eux, ayant ainsi les uns envers les autres des droits et des devoirs réciproques. Et ils se distinguaient ainsi entre seigneurs suzerains et vassaux, également appelés feudataires. Le vassal avait ainsi à l'origine reçu, du fait de services rendus, des terres. Terres portant alors le nom de fief. Et la racine du mot fief était saxonne, du mot saxon fi, qui signifie salaire. Les chefs germains ou francs avaient ainsi coutume de remettre partie des terres conquises par eux après les conquêtes et les invasions aux plus valeureux de leurs guerriers. Et c'est pourquoi celui qui avait donc reçu ses salaires, ses terres, ses fiefs, devait pour lui-même, puis plus tard pour sa descendance, foi et hommage à son donateur, puis aux descendants de son donateur. Et ainsi, dans une forte et grande imbrication réciproque, le seigneur suzerain de certains fiefs pouvait, et était le plus souvent, vassal lui-même pour d'autres fiefs. Suzerain pour les fiefs qu'il avait lui-même concédés, vassal pour les fiefs, pour les terres qu'il avait reçues. Et ce système d'organisation sociale appelé féodal, de ce mot même de fief, ce système était d'existence très ancienne, ayant existé du moins en germe de temps immémorial chez les peuples conquérants germains.